Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Jeudi 21 mars 2024 sur SBS Audio, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre programme en français. Marianne Murat à vos côtés pendant une heure avec Christophe Mallet. Nous allons parler actualité, sport, économie, puis en deuxième partie d'émission, direction la Nouvelle-Zélande, alors que la ville de Christchurch célèbre terriblement les 5 ans de l'attentat qui a fait 51 morts. Notre journaliste Léo Roussel est allé sur place et a interrogé une professeure de droit et une autre journaliste pour revenir sur ce que la première ministre néo-zélandaise de l'époque, Jacinda Ardern, avait qualifié de l'une des journées les plus sombres de l'histoire du pays. C'est dans un instant, mais d'abord on commence avec le journal. À la une de ce jeudi, les ministres de la Défense et de la Diplomatie britanniques en visite en Australie. Demain, ils seront à Adélaïde pour visiter le chantier naval dans le cadre du partenariat AUKUS. Anthony Blinken en tournée au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite hier, en Égypte aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain devrait se rendre en Israël pour tenter de convaincre Benjamin Netanyahou et le Hamas de prononcer un cessez-le-feu. Et enfin, point d'interrogation concernant les Jeux Olympiques 2032. Se dérouleront-ils à Brisbane comme prévu? Vous entendrez la ministre des Sports en fin de journal, juste avant le journal des sports signé Christophe Mallet. Mais avant de développer ces titres, cette dernière information concernant l'emploi, le taux de chômage est tombé à 3,7% ce mois-ci, avec 116 000 Australiens ayant trouvé du travail en février. On le disait en titre, le ministre chinois des Affaires étrangères à peine reparti de Canberra, que Penny Wong reçoit déjà un autre de ses homologues, c'est le britannique David Cameron cette fois. Dans le même temps, le ministre de la Défense Richard Marles rencontre lui Grant Shapps. Au menu des discussions, la défense donc bien sûr, mais aussi le climat, la cybersécurité et la situation financière en Australie et au Royaume-Uni. Une déclaration des deux ministres de la Défense est attendue à l'issue de cette rencontre bilatérale. Les quatre ministres se réuniront ensuite ensemble, cette fois à Adélaïde demain. Pourquoi Adélaïde? Eh bien, pour visiter le chantier naval d'Osborne dans le cadre du partenariat AUKUS signé avec les États-Unis en septembre 2021. On en parlait dans le 3 minutes d'hier, cette fois, la passe d'armes entre Donald Trump et Kevin Rudd, l'ancien Premier ministre australien et actuel ambassadeur aux États-Unis. Kevin Rudd a qualifié l'ancien président et candidat de traître. Donald Trump a rétorqué que s'il était réélu à la Maison-Blanche, eh bien Kevin Rudd ne resterait pas longtemps ambassadeur avec son comportement hostile. Des échanges virulents qui avaient même entraîné une réponse de Penny Wong et de Anthony Albanese, selon lesquels le poste de diplomate ne devait pas être politisé et que le rôle de Kevin Rudd ne serait pas remis en question en cas de réélection de Donald Trump. Mais ce n'est pas l'avis du député national Barnaby Joyce. Écoutez.
Trump will do lots and lots and lots of things which we will have lots of time to speak about, but rolling over won't be one of them. And once he sets a path, I think that Rudd's cooked. And so, you know, you might as well drag him back, send him to another country, send him over to France or, I don't know, The Hague, or make him Deputy Secretary of the United Nations. I don't know, do something else with him.
Le gouvernement australien, toujours en lutte contre le vapotage, de nouvelles lois sont présentées au Parlement aujourd'hui, notamment des réglementations plus strictes en matière d'importation, de possession et de vente. Il faut savoir que le vapotage continue de croître chez les jeunes Australiens, avec un lycéen sur 10 déclarant utiliser régulièrement une cigarette électronique. On écoute la professeure Becky Freeman, selon qui ces lois sont nécessaires pour protéger les enfants.
When we talk to kids, they tell us that vapes are extremely easy for them to access, that they are incredibly confident that if they needed to buy a vape tomorrow, that they could, and that when they stop in shops on the way home from school, where they buy their lollies, fizzy drinks, and ice creams. They can also buy vapes that come in candy flavors. I stand supporting this law today. I hope that we can see that it's the best way to protect children from the easy access to vapes, and nobody wants to see another generation addicted to nicotine for decades to come.
Et sur la scène internationale, Anthony Blinken devrait se rendre en Israël lors de sa tournée au Moyen-Orient, qui a débuté hier en Arabie Saoudite et continue aujourd'hui en Égypte. Tel Aviv sera la dernière destination de sa visite. Objectif du secrétaire d'État américain, convaincre Benjamin Netanyahou de prononcer un cessez-le-feu avec le Hamas. Une visite qui intervient dans un contexte tendu alors que le chef de file démocrate américain, le sénateur Schumer, a appelé à des élections anticipées en Israël. Déclaration soutenue ensuite par Joe Biden. On écoute le porte-parole d'Anthony Blinken, Vedant Patel, selon lequel l'aide humanitaire à Gaza sera au menu des discussions.
He's going to discuss with the government of Israel, its leadership, the ongoing negotiations to secure the release of hostages. He's going to discuss the need to defeat Hamas, including in Rafah, in a way that we believe will hopefully protect civilian populations, does not hinder the delivery of humanitarian assistance, and advances Israel's overall security.
Un mot de sport avec cette question brûlante. Les Jeux Olympiques 2032 vont-ils bel et bien avoir lieu en Australie ou non? Il apparaît que le gouvernement du Queensland aurait demandé conseil pour se retirer de la concurrence avant de se rétracter, puisque le dit conseil coûtant jusqu'à 1 milliard de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Le premier de l'État, Stephen Miles, a depuis refusé de commenter cette information. Il a juste déclaré que le Queensland restait déterminé à offrir, je cite, « la meilleure expérience possible aux amateurs de sport ». Voilà, la ministre des Sports, Annika Wells, elle n'a pas caché sa déception quant à cette information. Selon elle, la situation concernant les Jeux de Brisbane 2032 devrait être clarifiée lors de la réunion avec le comité d'organisation prévue demain.
Firstly, we've got our OCOG meeting tomorrow, which is, I think, a really timely time for everyone with a stake in this to get around the one table and have a discussion about the pathway forward. I mean, you make the point, Brisbane's had more years than any other host city by the IOC to prepare. And it's a shame that things have come to this point where Queenslanders and Australians are unhappy with where things are at in terms of the preparation for the Games.
Et toujours en sport, les quarts de finale de la Ligue des champions féminines, c'était cette semaine et deux résultats positifs pour les clubs français. Hier, les Parisiennes du Paris Saint-Germain ont battu les Suédoises du club de Häcken sur le score de 2-1 en Suède. Et avant-hier, les Lyonnaises ont battu les Portugaises du Benfica sur le score de 2-1 également. On écoute l'attaquante lyonnaise et l'internationale française, Eugénie Le Sommier.
Pour avoir vu jouer un petit peu dans cette Ligue des Champions, c'est une équipe qui a de la qualité, qui a des qualités individuelles. On les a aussi jouées en Ligue des Nations parce qu'il y a beaucoup de joueuses du Portugal. C'est une équipe assez jeune et à la fois une équipe qui n'a rien à perdre. Elles avaient déjà joué contre Lyon en 2021, j'étais pas là, elles avaient fait bonne figure. Elles ont de très bonnes joueuses.
Et le reste de l'actualité sportive, c'est dans un instant. Restez sur SBS French. Tout de suite, après ce journal, ce sont les sports signés Christophe Mallet. Mais en attendant, un point sur la météo de ce jeudi après-midi. 31 degrés à Perth et à Cairns, 24 à Adélaïde. Il fait 21 degrés à Melbourne et à Hobart. Comptez 20 degrés à Canberra, 23 à Sydney. Il fait 28 degrés à Brisbane malgré des averses. Des averses également à Darwin, comptez 32 degrés. Le rappel des titres, les ministres de la Défense et de la Diplomatie britanniques en visite en Australie. Demain, ils seront à Adélaïde pour visiter le chantier naval d'Osborne dans le cadre du partenariat AUKUS. Kevin Rudd restera-t-il ambassadeur des États-Unis si Donald Trump était réélu? L'Australie dit que oui, l'ancien président américain menace que non. Et enfin, Anthony Blinken en tournée au Moyen-Orient. Il était en Arabie Saoudite hier, en Égypte aujourd'hui. Il devrait se rendre en Israël.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Je journal des sports et on débute avec du football et eh bien la question du moment alors que les Bleus sont réunis à Clairefontaine pour un match samedi, une série de matchs amicaux d'ailleurs, notamment un match samedi donc contre l'Allemagne. Question du moment, est-ce que certains des Bleus pourront participer à l'épreuve des Jeux Olympiques, l'épreuve de football donc aux JO? On sait que l'équipe a le droit d'avoir 3 joueurs de plus de 23 ans et professionnels, mais la question est de savoir si des joueurs comme Griezmann pourront y participer, et surtout Kylian Mbappé qui est pour l'instant avec le Paris Saint-Germain, on le sait, c'est peut-être un secret de polichinelle, il serait sur le départ pour le Real Madrid qui a déjà dit qu'il n'autoriserait aucun de ses joueurs d'aller jouer donc pour ces Jeux Olympiques. La réaction de Thierry Henry sur cette nouvelle.
Je m'en doutais, je ne pense pas qu'il y a pas mal de... tous les clubs vont arriver, vont te dire oui, prends tous les joueurs que tu as à prendre, c'est tout à fait normal, surtout les clubs à l'étranger qui ne voient pas la même situation comme nous en France. Parce que c'est les JO pour nous, ici, c'est la France, les clubs français, je pense, vont être là pour aider. Mais les clubs à l'étranger, c'est normal qu'au départ, il y a un peu cette... Enfin, c'est même pas une réticence, c'est carrément un non. Donc, je me suis jamais arrêté au premier non, en général. Donc, on va essayer de voir si on peut discuter, si on peut être reçu. Et puis, on verra bien où ça va arriver, tout ça. Mais bon, la décision reste malheureusement, pour nous, bien sûr, au club. C'est pas une date FIFA, et tant que ça sera pas une date FIFA, ça devient vraiment difficile.
Thierry Henry, donc le sélectionneur de l'équipe de France pour les Jeux Olympiques, équipe de France de football, bien entendu. On continue sur le football et les quarts de finale de la Champions League avec Hugo Moissonnier.
De très belles affiches en perspective, un choc entre le Real Madrid et le tenant du titre Manchester City. Le Paris Saint-Germain affrontera le FC Barcelone. Arsenal, pour son retour 14 ans après son dernier quart de finale, sera opposé au Bayern Munich. Enfin, duel entre l'Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund. Et puis à l'échelon inférieur, en Ligue Europa, Marseille jouera sa place dans le dernier carré contre le Benfica Lisbonne. Rendez-vous à partir du 9 avril pour ces quarts de finale aller des Coupes d'Europe.
Voilà donc pour cette Ligue des Champions donc de football. On reste sur le terrain vert du football et la victoire de Manchester United face à Liverpool, c'était en quart de finale de la Coupe anglaise. On écoute le commentaire d'Eric Ten Hag, c'est le sélectionneur, l'entraîneur de Manchester United. Il parle d'Amad Diallo, le joueur de Man United.
Je suis très heureux pour lui. C'est l'un des joueurs qui a vécu un énorme coup dur cette saison. Il a eu une sérieuse blessure. Il est revenu, mais dans une équipe où il y a beaucoup de concurrence à son poste. Il n'a pas toujours le temps de jeu qu'il mérite au vu de ses performances à l'entraînement. Mais quand il entre, il montre sa contribution en marquant un but. Et on sait qu'il peut le faire, qu'il sent les moments clés où il peut faire basculer le match. Et je suis très content qu'il ait pu marquer le but décisif.
Voilà donc Manchester United qui bat donc Liverpool au score de 4-2. Ils joueront Coventry en demi-finale. Alors que dans l'autre demi-finale, eh bien, on verra un match au sommet également entre Manchester City et Chelsea. Allez, un mot de la sélection marocaine et le joueur Ben Seguiri qui avait le choix entre la France et le Maroc. Il a 19 ans, il joue à Monaco. Eh bien, il a choisi la sélection marocaine. On l'écoute.
J'ai la chance de pouvoir jouer pour deux grandes nations du football. Ça a été un choix compliqué mais mûrement réfléchi. Et j'en suis très fier. J'ai fait ce choix par rapport à mes racines. Mes deux parents sont marocains. J'ai pu passer mes vacances d'été à Marrakech. Cet été, j'ai pu aussi aller notamment voir la rencontre de demi-finale U23 de la CAN qui a opposé le Maroc avec le Mali. Et ça m'a aussi montré l'engouement que porte le peuple. La Fédération Française de Football aussi a essayé de me garder, entre guillemets. Mais du moment où j'ai fait ce choix, je l'assume et je fonce.
Voilà donc pour le sport pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le français sur Radio SBS. À tout de suite.
Sans nom, un homme extraordinaire.
Et c'était Les Innocents, un homme extraordinaire, chanson qui est publiée depuis un petit moment d'ailleurs, mais qui fait toujours plaisir à entendre. Les Innocents, donc un homme extraordinaire qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois en cours. Il est 13h20, on fait une courte pause et on parle d'économie avec des sujets qui nous touchent tous, tout de suite après ça.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Allez, c'est l'heure maintenant de parler de notre semaine économique avec notre spécialiste en la question, Nicolas Purpich. Bonjour Nicolas.
Bonjour Christophe.
Alors vous arrivez en nous donnant une bonne nouvelle, hein, si je lis l'intitulé de cette discussion, hein, le prix de l'électricité devrait finalement commencer à baisser et ce serait une première pour depuis 2 ans. C'est énorme.
Énorme. Un énorme soulagement vraiment autour du pays.
Oui, pour tous, hein, je crois.
Vraiment, parce que c'est 2 ans où ça n'arrête pas. C'est devenu un problème en plein milieu de cette crise autour du coût de la vie. Et donc, il y a des gens, des business, des familles, tout le monde va voir ça, va voir la différence, on espère au moins. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le Australian Energy Regulator qui décide un peu le maximum des prix, le pourcentage que les prix d'électricité peuvent monter ou descendre. Ça s'appelle les default market offers. Et là, ils ont décidé qu'à partir du 1er juillet, ça pourrait baisser, ça dépend de la région, ça pourrait baisser par autant que 10%. Ça serait la première fois en 10 ans.
Ouais, donc, c'est énorme, 10%.
C'est énorme. Donc, c'est le maximum que les compagnies peuvent faire payer les clients. Donc, c'est nous, c'est les business, etc. Et ça sera, ça dépend où on habite, mais ça sera entre 0,9% et 9,7%. Donc, ça pourrait dire que si c'est au maximum, les factures pourraient baisser par autant au plus qu'à peu près $487 l'année. Mais il y a 2 endroits où en fait ça va continuer à monter un petit peu. Donc par 0,9% ou à peu près $22 pour des clients en Nouvelle-Galles du Sud, dans les régions, à la campagne, et aussi 2,7% ou $53 dans le sud-est du Queensland. Donc ça, c'est les deux endroits où malheureusement ça va continuer à monter un peu plus. C'est pas très clair pourquoi. Pourquoi ces deux endroits et pas les autres, ça c'est pas clair. Mais ce qui est sûr, c'est que le prix de l'énergie, de l'électricité, ça fait un bon moment maintenant que c'est pas juste une question économique, financière, mais aussi politique. Un grand débat entre le gouvernement et la coalition avant les élections, parce que le gouvernement d'Anthony Albanese avait promis de faire baisser les factures par en moyenne $275 avant 2025. Et donc, gouvernement, Monsieur Albanese, le Premier ministre, dit que oui, les prix ont monté depuis 2 ans, mais c'est pas vraiment leur faute. Ça avait commencé avec le gouvernement d'avant, et aussi il y avait des conditions assez extraordinaires avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Mais bon, ça va pas arrêter l'opposition. Mais Monsieur Dutton d'attaquer Monsieur Albanese aussi. Donc le prix de l'électricité, c'est vraiment hyper important pour plein de raisons.
Voilà, c'est une des questions clés quand on parle du prix du budget. Hein, c'est bien sûr c'est votre loyer, mais l'énergie, hein, l'essence et l'électricité, ça reste quand même clé dans un pays comme l'Australie, dans un monde qui devient de plus en plus électrique en plus.
Et voilà. Alors c'est pas juste nous, les clients, qui vont être contents, mais c'est sûr que Monsieur Albanese et ses ministres aussi vont être assez contents parce que ça diminue la capacité de l'opposition de les attaquer, de les critiquer.
On revient toujours à une discussion politique, c'est incroyable. Allez, deuxième sujet, on parle de Uber qui s'est mis d'accord pour payer, alors attention, accrochez-vous, $272 millions aux conducteurs de taxi pour dédommagement. Expliquez-nous un peu tout ça parce que c'est incroyable comme décision. C'est un des plus gros settlements pour une entreprise en Australie, je crois.
Oui, Oui. Donc là, en fait, c'est le cinquième plus grand accord de ce genre jamais en Australie, dans l'histoire de l'Australie. Donc là, ce qui s'est passé, c'était une action de groupe. Il y avait 8000 conducteurs de taxi autour de l'Australie. Oui. Et selon leurs avocats, de Maurice Blackburn Lawyers, Uber aurait commencé ses opérations ici en Australie d'une façon illégale. Et donc, ça veut dire qu'ils avaient un avantage contre les conducteurs de taxi. Et ça, c'était vraiment la base de ce cas juridique. Et là, après assez longtemps, des années de négociations, de disputes, des centaines de milliers dépensés sur les avocats, sans doute, juste avant qu'ils allaient commencer un procès, Uber a dit, bon, on est d'accord, on va payer une indemnité de presque 272 millions de dollars, justement, en récompense pour la perte de salaire et de la valeur des licences de taxi. Depuis que Uber s'est installé en Australie, il y a des conducteurs de taxi parmi ce groupe qui disent qu'ils ont perdu tout leur business. Ils ont dû aller travailler ailleurs parce que Uber ça a tellement transformé ce secteur, tellement transformé cette industrie. C'était impossible pour eux en compétition avec Uber le prix
parce qu'il faut se rappeler de quelque chose, c'est que les chauffeurs de taxi quand on a une licence de taxi, elle est pas gratuite, faut l'acheter. Donc il y a beaucoup de gens, juste pour expliquer, il y a beaucoup de gens qui font des crédits, qui ont des charges et quand en plus on rajoute dedans le coût du pétrole et le fait que les gens vous utilisent moins parce qu'ils utilisent une application parce que c'est plus simple et que c'est plus beau et que c'est plus sympa. Forcément, il y a la façon de disrupting, on va dire en anglais, un marché, mais Uber l'a fait donc d'une façon illégale au début.
Selon action de groupe, mais Uber, par contre, ils disent que c'était pas illégal parce que quand ils sont arrivés ici, il n'y avait aucune réglementation pour ce secteur, parce que c'était aussi, comme tu viens d'expliquer, c'était quelque chose de complètement nouveau. On n'avait jamais vu ça. C'était le ride sharing. Et donc, la loi, les réglementations n'étaient pas vraiment à ce niveau encore. Donc, ils disaient que c'était en effet un marché complètement ouvert. C'est venu tellement vite, tellement rapidement qu'on n'a pas pu se préparer. Donc, ils disent qu'ils n'ont rien fait d'illégal. C'est juste qu'ils sont arrivés avant que justement les gouvernements puissent réagir à temps. Et maintenant, tout a complètement changé depuis ce temps-là, en 2018, et Uber dit qu'ils ont contribué plusieurs fois à récompenser les taxis en reconnaissance justement de cet impact énorme qu'ils ont eu. Et ça ne va jamais changer maintenant. On ne va jamais retourner à une époque où il n'y a que des conducteurs de taxis qui payent des frais énormes, de l'essence. Les conducteurs de taxis, si on parle avec eux, ils vont te raconter comment ils conduisent des heures et des heures. Ils se font jamais beaucoup d'argent, vraiment. Et en même temps, si on parle avec des conducteurs de Uber, ils vont raconter comment eux non plus, ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, Uber prend un énorme pourcentage aussi. Donc, et c'est eux aussi qui doivent maintenir leur voiture et payer l'essence aussi. Donc, voilà.
C'est une industrie qui est vraiment en changement. Quand on y réfléchit, d'ici 10 à 15 ans, l'industrie du transport de la personne, ça va vraiment être modifié, c'est certain.
Oui, voilà. C'est vraiment un exemple classique de quelque chose de nouveau qui a eu un effet disruptif qui a complètement bouleversé ce secteur, cette industrie.
Absolument. Merci, Nicolas.
Merci beaucoup.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Des roses de cristal, Chris et Sam Mollis. Amour sans rival, belle, ah que la vie est belle, ah que la vie, ah que la vie est belle.
Et c'était Zao de Sagazan avec cette chanson « Ah que la vie est belle », une chanson d'ailleurs interprétée auparavant par Brigitte Fontaine, une très belle chanson, donc « Ah que la vie est belle ». Petite aparté dans le programme musical du mois d'avril, puisque cette chanson sera donc dans la liste des chansons pour le mois d'avril, pour le programme en français sur Radio SBS. Courte pause et on revient tout de suite après dans le programme.
pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Il est 13h34 minutes. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Il y a 5 ans, presque jour pour jour, c'était le 15 mars donc de l'année 2019, la ville de Christchurch en Nouvelle-Zélande était frappée par un terrible attentat. C'était le suprématiste blanc australien d'ailleurs, Brenton Tarrant, qui était rentré dans une mosquée et abattait 51 musulmans avant d'être arrêté par la police. Et 5 ans plus tard, notre collègue Léo est partie à la rencontre de Françaises qui étaient là-bas, Annick Maslow, qui est professeure de droit à l'université de Canterbury de Christchurch, et Cécile Meyer, journaliste. Avec lui, ils reviennent sur cette dramatique journée qualifiée par la première ministre néo-zélandaise à l'époque, Jacinta Ardern, comme l'une des plus sombres histoires du pays. Reportage de Léo Roussel donc.
Le 15 mars dernier, la Nouvelle-Zélande commémorait les 5 ans de l'attentat terroriste de Christchurch. En 2019, un suprémaciste blanc australien semait la terreur dans 2 mosquées, tirant sur la foule. 51 personnes perdront la vie lors de cette journée que la première ministre de l'époque, Jacinda Ardern, décrira comme l'une des plus sombres de l'histoire du pays. Nous nous sommes rendus à Christchurch le mois dernier et nous avons rencontré 2 Françaises qui ont accepté de nous raconter cette journée si étrange pour la ville et pour le pays. Elles témoignent de l'onde de choc dans la ville après cet attentat d'extrême droite, de l'élan de solidarité qui a suivi et racontent ce qui est ressorti de cette épreuve 5 ans après. À Christchurch, tout le monde se souvient de ce qu'il faisait le 15 mars 2019, lorsque la terrible nouvelle est tombée. Annick Maslow, professeure en droit à l'université de Canterbury, habite à Christchurch depuis 17 ans. Elle raconte cette journée du 15 mars 2019.
En fait, j'étais chez le docteur et quand j'étais dans la salle d'attente, ils ont commencé à dire « Ah, oh, il se passe quelque chose ». Quand je suis sortie de chez le docteur, ils ont dit « Ah, il y a eu quelque chose à la mosquée ». Je crois qu'à ce moment-là, je savais que c'était à la mosquée et qu'il y avait eu une attaque terroriste. Et donc, j'ai essayé de retourner à mon travail. Donc, je suis retournée à l'université. Et à ce moment-là, à l'université, tous les buildings étaient fermés. Donc, je ne pouvais pas retourner dans mon bureau. Et donc, je me suis dit, je vais aller attendre pour aller chercher mes enfants qui étaient à l'école. Mais les enfants ne sont pas sortis de l'école puisque toutes les écoles, elles étaient en lockdown. Tous les endroits où les gens travaillaient, c'était en lockdown. L'université, c'était en lockdown. Il n'y avait plus personne qui pouvait marcher. Il n'y avait plus personne dans les rues, en fait.
Cécile Meyer est-elle journaliste? Elle travaillait à l'époque pour le média néo-zélandais Stuff. Pour sa rédaction, le drame a évidemment été tout aussi marquant.
Je me souviens, j'étais enceinte de mon fils et j'étais un peu plus sensible que d'habitude, on va dire. Donc le jour même, je pense que j'étais à la maison et j'ai un peu suivi les nouvelles sur mon téléphone, sur Internet, tout ça. Et donc il y avait ce climat de peur, d'anxiété. On ne savait pas trop ce qui s'était passé. Est-ce qu'il y avait peut-être encore des terroristes qui n'avaient pas été arrêtés? Il y avait beaucoup de questions encore sur la sécurité de la ville. Donc le jour même, j'ai pas travaillé, mais le lendemain, je suis arrivée à la salle de rédaction et là, tout le monde était là-dessus et tout le monde a couvert tous les angles de cet événement.
Dans les heures qui ont suivi l'attentat, les éléments sont parvenus au compte-gouttes à la population. Les gens ne savaient pas vraiment ce qui se passait et restaient largement dans le flou, malgré la sécurité renforcée rapidement par les autorités.
À la radio, on n'avait pas tellement de nouvelles. Enfin, c'était assez... On avait bien compris qu'il y avait eu une attaque terroriste. Je crois que c'était assez clair que c'était sur au moins une des mosquées. En fait, on ne savait pas exactement si c'était une attaque qui partait des mosquées ou qui arrivait dans les mosquées. Enfin, c'était pas très clair ce qui s'était passé. D'ailleurs, on ne savait pas si c'était une personne ou un groupe. Et il y avait potentiellement du danger.
Il y avait une atmosphère de peur. Je pense qu'on ne savait pas trop s'il y avait peut-être d'autres personnes connectées qui étaient encore, même si le terroriste lui-même avait été arrêté, on ne savait pas, peut-être qu'il y avait d'autres. Il y avait un peu un manque d'informations qui faisait que... je pense que beaucoup de personnes avaient peur, en fait, tout simplement.
Et puis, au fil des heures, les informations sont tombées. La menace s'est apaisée, mais dans le même temps, la ville a pris conscience de ce qu'il venait de se passer. Une attaque terroriste d'extrême droite commise par un homme se revendiquant suprémaciste blanc.
Le terrorisme d'extrême droite, malheureusement, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Aux États-Unis, il y avait eu déjà quelques événements. En Europe également, donc c'est vrai qu'encore une fois, c'est quelque chose, on pensait plus un shooting comme ça, c'est quelque chose plus qu'on pense aux États-Unis qui peut arriver là-bas, mais malheureusement, je pense que partout dans le monde, en fait, personne n'est immune aux idéologies extrêmes, d'où qu'elles soient, et on doit tous vraiment faire attention à ça.
Assez rapidement, je me suis rendu compte assez rapidement que l'attaque terroriste, c'était vraiment contre une communauté en particulier. Et moi, je ne fais pas partie de cette communauté. Donc, je me suis bien rendu compte assez rapidement que je n'avais pas besoin d'avoir peur pour moi, pour ma vie ou ma sécurité. Et que ce n'était pas moi qui était... c'était vraiment une communauté qui était visée. Donc, j'ai été rassurée assez rapidement.
À Christchurch, c'est le choc dans la communauté musulmane, d'abord meurtrie, mais aussi dans le reste de la ville qui se croyait à l'abri de tels événements.
C'est une ville pépère ici, il ne se passe jamais rien. En même temps, il se passe plein de trucs puisqu'on a eu des tremblements de terre, on a eu cette attaque terroriste, tout ça. Mais c'est pas, on pense toujours à des attaques terroristes qui doivent se passer dans des grands centres. Donc nous, on n'est pas ni la capitale, ni le centre de la Nouvelle-Zélande. Puis en plus, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même une île au milieu de nulle part. On n'a pas, j'ai pas l'impression que c'est un pays où une ville d'ailleurs où il devrait se passer des choses comme ça, donc c'est choquant dans ce sens-là.
Moi je viens de Nice et il y a eu une attaque terroriste à Nice en 2015 je crois, qui était vraiment très choquante également, et je me souviens à l'époque je me disais nous on est en sécurité en Nouvelle-Zélande, il n'y aura jamais d'attaque terroriste ici parce que qui va venir faire une attaque ici, c'est trop loin de tout. Donc je me suis toujours sentie vraiment en sécurité ici, et je pense que beaucoup de personnes, même des réfugiés qui ont été victimes de cette attaque, sont venus dans ce pays, ont échappé la guerre, pensant que c'était un pays vraiment très, très sécure, avec peu de chances de choses comme ça qui se passent. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'était complètement choquant et inattendu.
Alors au lendemain des attentats dans la ville et même dans tout le pays, un énorme mouvement de solidarité s'est construit pour soutenir la communauté musulmane de Christchurch.
Je pense qu'il y a une réponse vraiment très humaine, autant au niveau du gouvernement. Donc la première ministre de l'époque a vraiment montré l'exemple par rapport à ça. Et c'est vrai que nous, en tant que journalistes, on a aussi suivi cette approche. On a tout de suite décidé de se concentrer sur les victimes, les familles des victimes, plutôt que de donner beaucoup d'espace aux terroristes et à ses intentions, ses motivations, son background, tout ça. Non. On est vraiment allé sur les victimes, sur qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que cette attaque a pu se passer, c'est-à-dire l'islamophobie qui existait déjà avant, qui avait peut-être été un peu ignorée par les autorités. Donc je pense que beaucoup de gens à Christchurch, l'ambiance était très solidaire, très ouverte, beaucoup de personnes peut-être qui s'étaient jamais intéressées à la population islamique, soudainement ont vraiment ouvert un peu leur cœur à ça et se sont vraiment intéressés à cette culture, aux autres personnes et à vouloir aider. Il y a eu beaucoup de solidarité financière, à tous les niveaux, vraiment, je dirais, une approche très inclusive.
Sur le coup, c'est vrai que les gens, ils étaient choqués. Et sur le coup, je pense que les gens à Christchurch, ils ne voulaient pas que ça se passe chez eux, ce genre de violence de l'extérieur. C'est quand même un grand événement. Il y a quand même plus de 50 personnes qui sont mortes. Donc, je pense que les gens eux-mêmes, ils étaient choqués. Et il y a eu beaucoup de gestes, de solidarité pour dire... pour dire comment les gens ils étaient choqués de ça. Et c'est vrai que La première ministre, elle a vraiment galvanisé toute cette sensation que tout le monde a reçue, quoi, un grand choc. Mais je pense que au long terme, ça a pas tellement changé l'attitude des gens.
La ville de Christchurch était alors au centre de l'attention du monde entier. Des événements de grande ampleur ont été tenus pour rendre hommage aux victimes juste après les attentats. Et dans les mois qui ont suivi, d'autres ont été organisés pour renforcer les liens entre les communautés.
J'ai participé à pas mal de ces événements, mais en tant que journaliste, je pense que si j'avais pas été journaliste, peut-être de manière personnelle, j'aurais certainement... Oui, j'ai fait une chose personnelle. Il y avait quelque chose au parc qui était organisé, une sorte de course, et puis on avait mis des t-shirts en support de collecter de l'argent pour les victimes et pour les premiers secours. Donc oui, je pense que beaucoup de personnes ont participé à tous ces événements, et effectivement, en tant que journaliste, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'accès à tout ce qui s'était passé à ce moment-là également.
Surtout à l'université, je me souviens que les étudiants, ils ont organisé plusieurs rallyes contre le racisme. Et en fait, ça a permis de discuter beaucoup d'histoires, d'expériences d'étudiants qui ont vécu des expériences de racisme. Et ça a permis de sortir tout ça. Et sur le campus, c'est vrai qu'il y a eu... Il y a eu beaucoup de discussions autour des expériences de racisme que pas mal d'étudiants ont vécu, mais ne pouvaient pas les exprimer jusque-là.
Ces attentats du 15 mars 2019, plutôt que de diviser la population comme l'aurait souhaité le terroriste, eh bien ils ont au contraire déclenché une prise de conscience chez la plupart des habitants de Christchurch.
Mes voisins sont palestiniens et tout de suite j'ai été voir, quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout de suite été les voir. Il n'y avait personne dans leur maison, mais je me suis dit oh, j'espère qu'ils ne sont pas là-bas, j'espère que c'est... Enfin, tout de suite, je me suis dit, c'est ce lien humain entre nous tous, c'est quand même important. J'ai l'impression que des fois, un peu en Nouvelle-Zélande, on est tous vraiment très individuels et un peu livrés à nous-mêmes et pas super bien liés humainement. Et ça, ça m'a fait quand même penser que quand même, on est tous liés humainement.
Je pense que cet événement m'a choquée comme... Tout le monde à Christchurch, tout le monde en a souffert. De savoir qu'il y a une intolérance aussi forte et que ça pouvait se passer, je pense que ça a vraiment fait une prise de conscience pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai trouvé ça très stressant et triste. Et vu que j'ai passé pas mal de temps à parler aux familles des victimes, aux veuves, j'ai rencontré beaucoup de ces personnes, j'ai vu les enfants qui avaient perdu leur père ou des membres de leur famille, et c'était vraiment c'était extrêmement triste, difficile et en même temps vraiment important de leur donner une voix, de s'assurer qu'ils reçoivent le support nécessaire, parce que malheureusement dans beaucoup de cas, certaines personnes n'ont pas reçu le support dont ils avaient besoin. Donc c'est un peu là que je me suis concentrée, mais c'est vrai que ça a laissé une marque au niveau personnel, d'être témoin de toute cette tragédie.
Alors 5 ans après ces attentats, qu'ont retenu les habitants, qu'a changé l'attaque dans le quotidien des Néo-Zélandais? Cécile Mayer assure que rien ne sera plus jamais pareil à Christchurch, mais que dans le pays, comme ailleurs, on peut pourtant très vite oublier.
Moi, j'en retiens que vraiment, on s'est tous ouvert l'esprit et on a beaucoup appris sur la communauté musulmane. Je pense qu'on ne se rendait pas compte qu'il y avait une communauté musulmane peut-être aussi grande à Christchurch. Je pense que ça nous a vraiment enrichis, que maintenant, il y a plus d'ouverture à ce niveau-là. Mais d'un autre côté, on oublie vite. Là, on a un nouveau gouvernement qui est plutôt de droite et il commence déjà à changer des mesures. Il parle de remettre en cause les mesures que le gouvernement avait fait en réaction aux attaques, de bannir certaines armes, qui est maintenant remis en question par ce nouveau gouvernement. Et on entend des rhétoriques un peu plus de droite, qui sont parfois malheureusement un peu plus vers l'extrême. Donc je pense que malheureusement on oublie vite. Même si je pense que dans la ville, les citoyens de Christchurch en eux-mêmes sont peut-être un peu plus ouverts d'esprit maintenant.
matos viennent chez Mao. Les grosses basses frappent le Pao. De quoi faire tomber KO. Pour la France c'est Jendao. Diplôme du Mac Macao. C'est Ying, c'est Yang, c'est le Takao. Pierre Feuille vient de Votao.
Et c'était MC Solar et Pierre Feuille, chanson qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de mars. 13h52 minutes presque. En baisse de 30% entre l'année 2022 et 2023, les traversées de la Manche par des migrants repartent à la hausse en ce début d'année 2024. Et ce, malgré des conditions hivernales et une eau à 9 degrés, c'est le constat que font les associations engagées auprès des exilés dans le nord de la France. 9 décès dus à des naufrages ont été recensés depuis le début de l'année. Ni ces tragédies, ni la forte présence policière, ni même les échecs répétés ne dissuadent les candidats au départ vers le Royaume-Uni. Un reportage pour RFI de Bastien Coulon.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Bonjour.
Comme chaque lundi, c'est jour de distribution alimentaire par les bénévoles de l'association Salam.
Là, ils sont au moins 400.
Une longue file d'attente s'est formée sur ce terrain vague boueux. Ici, plusieurs dizaines de migrants tuent le temps en attendant de saisir leur chance, celle de traverser la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Abdoul est afghan, il a 19 ans et il en est déjà à sa troisième tentative.
On a essayé de traverser la nuit dernière à bord d'une embarcation, mais la police est arrivée et a percé le bateau. Et donc, nous sommes retournés ici, dans ce camp. La fois précédente, le bateau n'est jamais venu. Et puis, une autre fois encore, nous sommes restés 4 heures en mer et le moteur a lâché. C'était terrible. Il n'y avait personne pour nous aider. On a attendu que la police vienne nous secourir. On les a appelés 3, 4, 5 fois. Aidez-nous, aidez-nous, parce que le moteur du bateau ne fonctionnait plus. Ils sont venus, mais tellement tard. Au bout d'une heure et demie.
Sa demande d'asile en France a été rejetée 2 fois. Le Royaume-Uni est donc sa prochaine destination, d'autant qu'il parle anglais et son oncle y vit.
Nous allons retenter encore et encore. Si Dieu le veut, nous y arriverons. Nous irons au Royaume-Uni.
Quand il y a échec, les migrants se retrouvent livrés à eux-mêmes, dans la nuit, souvent mouillés, divaguant dans le froid. C'est là qu'intervient Thomas, bénévole à Utopia 56.
Là, dans la voiture, on a des vêtements enfants, des vêtements de femmes. En fait, on a de quoi rhabiller de la tête aux pieds, en général, à peu près 80-90 personnes.
Après une heure de maraude, le bénévole repère 30 migrants. Il est 4 heures du matin. Le groupe remonte de la plage en longeant une route nationale.
Très mal, voilà.
Un homme s'avance en boitant. Il se plaint de douleur aux pieds.
Regardez-moi, voilà, beaucoup mal. Regarde. Oui. Parlez ambulance, s'il vous plaît.
On peut appeler une ambulance.
Oui.
Pour aller à l'hôpital.
Oui.
Mais nous, on ne peut pas t'amener quelque part. Est-ce que vous êtes tombé dans l'eau?
Oui. Water, bah oui, loup. Water.
Les forces de l'ordre ont empêché un départ en mer du groupe, composé de familles avec parfois de très jeunes enfants. Alexis, l'autre bénévole, se démène pour leur trouver un hébergement d'urgence.
It's closed.
Mais l'hôtel le plus proche est fermé. Il fait 2 degrés, des habits secs et chauds leur sont distribués.
On essaie toujours de faire quelque chose, quoi. Même si le 115 répond pas, même si l'hôtel est fermé, bon ben on fait quelque chose de minimum pour leur montrer qu'ils sont pas tout seuls.
Sur la plage, un sac à dos abandonné, le témoin d'un départ précipité. Cette nuit-là, 320 migrants réussiront à rallier le Royaume-Uni.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
C'est drôle la vie comment elle passe. C'était pas hier, mais c'était il y a pas longtemps. C'est drôle la vie comment elle trace. Je le vois bien dans la glace, j'ai pris quelques cheveux blancs. Mais je me dis que c'est rien, c'est chaud la vie. Non.
Allez, je vous la laisse jusqu'à la dernière note. C'était C'est drôle, la vie, une chanson de Christophe Maé avec la voix d'Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, je vous rappelle, qui a été sur les ondes de Radio SBS. Son interview avec notre collègue Grégory est disponible sur notre site internet. On arrive à la fin de ce programme. On va faire un rappel des grands titres de l'actualité pour ce 21 mars. Et dans l'actualité, donc, les ministres de la Défense et de la diplomatie britannique qui sont en visite en Australie. Demain, ils seront à Adélaïde pour visiter le chantier naval d'Osborne dans le cadre du partenariat AUKUS. Anthony Blinken en tournée au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite hier, Égypte aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain devrait se rendre en Israël pour tenter de convaincre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le Hamas de prononcer un cessez-le-feu tout en appelant à plus d'aide humanitaire à Gaza. Et enfin en sport, point d'interrogation concernant les Jeux Olympiques de 2032. Se dérouleront-ils à Brisbane comme prévu? Il semblerait que le premier du Queensland soupèse les options. La ministre fédérale des Sports a rendez-vous demain avec le comité d'organisation. Affaire à suivre. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Ça a été le plaisir pour Marianne et moi-même de vous la présenter. Prochain rendez-vous avec le français, c'est bien entendu ce week-end à l'antenne de Radio SBS, samedi et dimanche à 13h et à chaque instant sur notre site internet sbs.com.au/french. Je vous rappelle aussi le nombre de films très impressionnants en français sur la plateforme d'SBS On Demand. N'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit, c'est là pour vous. sbs.com.au/On Demand. Voilà, c'est tout pour cette émission. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. Et on se retrouve samedi. À bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.